Bretin.
Il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec. Et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voie est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. On parle d'amour aujourd'hui dans l'émission avec l'écrivaine Anne-Fleur Multon. Nous visiterons bien entendu une bibliothèque, celle de la journaliste Patricia Loison aujourd'hui. Christophe Daniel, notre libraire de la 25e heure, nous donnera ses conseils de lecture. Et puis Sébastien Bordenave fermera la boutique avec sa chronique bande dessinée. Mais d'abord donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. Bonjour Anne-Fleur Multon.
Bonjour.
On dit Multon ou Multon?
On dit Multon ou Multon. À vrai dire, c'est un nom anglais à la base, donc on devrait plutôt dire Multon, mais
Multon,
moi c'est
ça claque.
Multon. Ouais, Anne-Fleur Multon, on a l'impression d'avoir un peu une star de cinéma.
Hein. Ouais, ou une détective à la Agatha Christie un peu.
C'est vrai, il y a quelque chose de presque Amanda Fletcher.
Ouais.
Mais non, en fait, je suis écrivaine, j'écris.
Appelez-moi Multon.
Appelez-moi Multon et invitez-moi à l'étranger, traduisez mes romans.
Bon, Les Nuits Bleues, ce n'est pas une enquête policière. On pourrait éventuellement chercher des pistes de réflexion avec le côté enquête sur l'amour, parce que c'est une très jolie et très belle histoire d'amour, mais presque c'est un genre banal, quoi. C'est-à-dire que c'est une histoire d'amour. Donc on se dit, c'est familier, on connaît, c'est presque un roman de genre finalement. Mais à la fois, il y a quelque chose de complètement inédit. Je me dis que ça doit être par l'écriture. Mais vous vouliez, vous emparer du roman de genre. Je précise que c'est votre premier roman en littérature dite adulte,
ouais,
que vous écrivez des livres jeunesse.
Je pense que j'ai toujours écrit des romans de genre. Parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la niche. Il y a une forme de contrainte qui est une contrainte formelle. Hein. Mmh. Il y a des codes qu'on peut choisir de garder ou qu'il va falloir transgresser. Des codes qui sont intéressants d'interroger. Mon dernier roman jeunesse, c'était un thriller, par exemple. Et la question avait été d'aller plus loin que le thriller, parce que la résolution, finalement, d'un thriller, c'est la résolution de l'énigme. Et comme là, dans ce texte dont on parle aujourd'hui, qui s'appelle Les Nuits Bleues chez l'Observatoire, il y avait une envie d'interroger le code de la romance, qui est une histoire d'amour hyper normative, finalement. On va se dire, voilà, on en a déjà vu, lu, regardé au cinéma des tonnes. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à faire? Et ça, c'est un peu excitant quand on est écrivain ou écrivaine. Et c'est aussi politique, évidemment.
C'est politique. Bon, on va en parler tout à l'heure, parce que moi, je ne pensais pas. Mais bon, peu importe. On garde ça pour tout à l'heure, ça sera une cartouche. Mais alors, du coup, vous sortez quand même de ces clichés, parce que c'est un genre très balisé. C'est quoi les astuces? Est-ce que ça tient aussi, peut-être, je me disais, au passage de retranscription de textos et avec des émojis divers?
Alors ça
parce que c'est une histoire d'amour moderne.
Voilà, ça transgresse peut-être pas vraiment le genre de l'histoire d'amour. Ça, on est davantage dans la recherche justement de l'écriture. Je dirais presque là, il y avait quelque chose du roman épistolaire que je cherchais un petit peu à retrouver. Le roman épistolaire, c'est aussi un genre d'un roman d'amour qui est complètement désuet aujourd'hui. On s'écrit plus des lettres. On s'écrit des textos, quoi. On s'écrit des textos, on s'écrit l'amour par message, on se retrouve pour la première fois et en fait on s'est déjà vu, mais sans jamais se croiser. Et c'est cette écriture-là dont je voulais parler dans un roman, je voulais lui accorder une forme de légitimité littéraire, parce que comme la lettre, il y a des codes qui sont intéressants de mettre dans un livre. Par exemple, il y a un moment dans le roman, notre narratrice, elle attend un message, et donc il y a ces trois petits points. Et ces trois petits points, là, narrativement, on les connaît. C'est
qui
les
veut
trois
dire que l'autre est en train d'écrire.
Exactement. Il écrit quoi? On attend, hein. C'est comme on attend la lettre du chevalier, quoi. Et là, en plus, il y a quelque chose d'un peu rythmique, parce que trois petits points, c'est aussi presque c'est trois temps, c'est une valse. Donc on parle de ça dans le texte, un texte qui s'écoute en fait, plus
complètement,
que...
oui.
Et donc je voulais rentrer un petit peu dans tous les interstices comme ça de l'écriture spécifique de l'amour aujourd'hui, puisqu'on s'écrit beaucoup, en fait, et en faire quelque chose qui s'entende, parce qu'on n'a pas l'impression forcément que ça va être romantique. Par exemple, se rencontrer sur Tinder, est-ce que c'est romantique ? On va se dire que non, alors qu'en réalité, il y a une forme de romantisme presque suranné d'ailleurs, dans ces messages qu'on s'envoie, dans les choses qu'on dit, dans les choses qu'on choisit de montrer, et dans ces instants qu'on partage un peu suspendus, sans se connaître, en se devinant, qui est une place à l'imagination.
Et les émojis, vous les avez pas, vous les écrivez en fait, vous les décrivez. Vous auriez pu très bien demander à votre éditrice de mettre des petites, bah, les émojis qu'on connaît, quoi.
Ouais, et je pense que c'était ce déplacement-là faisait en sorte qu'on avait vraiment un texte qui soit un texte littéraire. Le dire tout en entier aussi venait un petit peu raconter l'émotion, mais avec en gardant un pied dans ce qui est notre réalité aujourd'hui, et aussi. Je trouve simplement une raison très pragmatique, c'est que j'avais déjà écrit des romans dans lesquels on s'échangeait des textos, où j'avais c'était pour la littérature jeunesse, donc l'émoji était explicité, et je trouvais ça pas beau. Et d'un point de vue formel aussi, voilà, simplement, hein, au-delà du sens même, il y a quelque chose dans un texte qui n'est pas illustré. Pourquoi on viendrait illustrer ça alors qu'on peut le dire, on peut l'écrire, d'ailleurs on le traduit dans notre texte, on voit ce petit émoji là et on sait que ça veut dire je rougis, j'ai honte, je cache quelque chose.
Non, et puis de toute façon, je dis ça, mais il y a quelques passages comme ça, mais ce n'est pas tout le texte qui sont des descriptions d'émojis. Il y a aussi des poèmes, il y a de la narration classique. Il y a une variété de genres et de manières d'écrire surtout. Mais enfin, revenons à l'histoire et au début de cette histoire qui commence pendant le confinement. C'est-à-dire que les deux héroïnes de cette histoire d'amour se sont rencontrées comme ça dans une soirée très très rapidement, et puis donc ensuite elles commencent à correspondre, mais c'est le confinement. Et alors, c'est pas du tout un roman sur le confinement, comme on attendait tous les romans de confinement qui devaient déferler, puis en fait, pas tant que ça, mais c'est assez génial parce que vous le prenez comme une sorte de prétexte idéal pour faire monter le désir.
C'est vrai.
Que vous pouvez pas vous voir.
Exactement. Je pense, enfin, ça faisait très longtemps que je voulais écrire une romance qui est justement... un genre qu'on a l'impression qui se dérobe un peu à la littérature finalement, et je cherchais les bonnes conditions pour faire naître cet amour et en même temps raconter une histoire avec une forme de tension. Dans les romans, justement, il y a ce moment où on retrouve, on court, je sais pas, après son amoureux ou son amoureuse dans un aéroport, etc. Et le confinement, ça crée évidemment cette atmosphère de tension narrative qui est intéressante, parce qu'il faut tout d'un coup transgresser pour se retrouver, pour se voir en vrai, des véritables policiers.
Enfin, c'est quand même, il y a une expédition, parce que finalement, au bout d'un moment, il faut absolument que vous vous voyiez. Et donc, la narratrice décide d'y aller, mais vous avez mis au point tout un stratagème.
Exactement.
Parce qu'on se rappelle des attestations, mais il faut être à moins d'un kilomètre de chez soi. Et vous tombez sur un flic, enfin en tout cas la narratrice, et le policier dit, demande l'adresse. Rue Camille Desmoulins, qui en fait n'a rien à voir ni avec votre adresse, ni avec celle de Sarah, donc, qui est l'autre héroïne. Et il dit, parce qu'il est malin, c'est où la rue Camille Desmoulins ?
Exactement. Et la narratrice répond effectivement un peu prise de court, etc. Et s'en sort quasiment avec cette impression mi-honteuse, mi-héroïque du chevalier ayant trompé quoi, le dragon. Effectivement, je trouvais qu'il y avait un truc hyper romanesque dans cette espèce de sensation finalement même un peu désuète, presque de vivre un confinement, presque de guerre, hein, quelque chose, voilà, et en même temps l'amour toujours, donc quelque et puis cette sensation aussi que c'était pas si grave, etc. Que c'était pas vraiment la guerre, donc il y avait aussi un jeu justement pour l'écriture où on a cette espèce d'amour qui est hyper fort et on joue. On joue avec le monde qui nous entoure, on joue avec les règles qu'on nous donne pour essayer de se construire aussi une histoire d'amour, parce qu'on se raconte qu'on est amoureux. C'est ça aussi que je voulais montrer dans le texte. Par ailleurs, sur le confinement, je trouvais que c'était la raison, c'était pas seulement que c'était un lieu narratif intéressant pour développer mon histoire, mais c'était aussi intéressant pour une histoire d'amour lesbienne, parce que c'est deux femmes qui s'aiment dans ce roman. Et je voulais écrire une histoire qui soit une histoire d'amour entre deux femmes sans obstacles. Ça, j'y tenais. Et le confinement permettait de développer cette histoire à l'intérieur des murs, en dehors des regards. Or, quand on vit une relation LGBT, quand on est une personne LGBT, le regard est déjà une forme d'obstacle, hein, narratif aussi, du coup, dans une histoire. Le coming out, c'est des histoires, en fait, c'est ces histoires-là qu'on raconte. Moi, j'avais envie de raconter une autre histoire, donc il fallait créer d'autres conditions, en fait.
Alors, donc, on continue cette histoire d'amour. Finalement, il y a la rencontre physique pendant le confinement avec une astuce pour éviter les contrôles. Mais donc, la narratrice arrive chez Sarah, dans son appartement, direct, premier bisou. Mais au moment, à ce moment précis, la bibliothèque de l'entrée s'effondre. Et là, on pourrait quand même y voir un signe assez délirant d'éventuel fantôme d'une ex. D'ailleurs, c'est le cas dans le livre.
Exactement. Alors, ça m'amusait parce que donc, c'est le moment, je crois, de parler d'autofiction, peut-être.
Voilà, exactement. J'allais vous lancer dessus. Voilà. Après. Parce que le livre est dédicacé à une certaine, dédié à une certaine Sarah.
Exactement, qui a aussi fait la couverture.
Ah,
donc,
d'accord.
C'est une personne qui existe, à vrai dire, c'est ma femme.
Waouh. Mais tout est vrai.
Et alors, tout est vrai. C'est la question qu'on peut se poser avec une fiction. Mmh. Surtout si c'est assumé l'autofiction. Alors, c'est une histoire. Tiré de frais réels, pour ce que ça veut dire.
Tout est vrai parce que je l'ai inventé.
Exactement. Oui. Alors, je pense que c'est une fiction quand même, parce qu'on écrit un roman. Dans un roman, on raconte des choses qu'on organise dans un certain ordre. Derrière, l'idée est de raconter une histoire. Ce n'est pas un témoignage, ce n'est pas un documentaire. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'on rentre dans ce livre comme on rentre dans une histoire et qu'on en sorte parce qu'il y a une fin et que pendant tout l'histoire, on a été en haleine. Donc, évidemment, il y a des choses qu'on enlève, qu'on retravaille, etc. Ça me tenait à cœur. J'aurais tout à fait pu changer le nom de Sarah.
Sarah sans H, en plus.
Sarah sans H, exactement. Qu'il a défini, d'ailleurs, maintenant, les gens l'appellent dans la vraie vie Sarah sans H. Mais qui est une expression dans le roman. Mais c'était important pour moi de dire que c'était quand même... inspiré de quelque chose qui s'est produit, parce que je crois que on a malheureusement trop de fictions d'histoires d'amour lesbiennes qui se finissent mal, qui se passent mal. Je crois que vous avez certainement en tête la vie d'Adèle, par exemple, qui est la grande fiction lesbienne qu'on connaît quand on imagine deux femmes qui s'aiment. En fait, c'est un récit qui est un récit de conflit. Souvent, il y a même un trope en pop culture qui s'appelle le trope de la lesbienne morte. Tellement les personnages lesbiens meurent.
Trope comme tropisme.
Trope comme tropisme, exactement. Meurent dans la fiction avant la fin des séries.
Une sorte de châtiment, quoi.
Exactement. Moi, j'avais envie d'une histoire lumineuse, joyeuse. J'avais envie de dire aussi à mes lectrices.
Mais c'est pour ça que je disais qu'elle était à la fois banale et inédite, cette histoire. Mm-hmm. Votre roman, c'est peut-être pour ça.
Peut-être qu'il y a quelque chose de... Vous voulez dire par rapport à...
Non, ce que je veux dire, c'est que c'est une histoire d'amour normal. Pardon pour le mot normal, mais je voulais y venir aussi. Vous aviez parlé tout à l'heure de gestes politiques dans l'écriture. Oui. Mais là, moi, ce que j'ai trouvé en lisant ce roman, c'est pour ça, mais je ne savais pas que vous l'aviez conçu un peu politiquement aussi, que moi, je n'y voyais justement pas de gestes particulièrement politiques, comme si c'était déjà normalisé ou comme si c'était souhaitable que ça le soit, mais comme si le fait de l'écrire normalisé, c'est-à-dire une histoire d'amour qui se passe bien, avec quelques accidents aussi au milieu de l'histoire, hein. Bon, sinon ce serait pas drôle, mais pas un truc où il y a juste un moment où Sarah, justement, dans la rue, retire sa main, parce qu'il y a le regard social quand même, qui est un peu compliqué toujours, de temps en temps. Mais voilà,
Justement, il me semblait que c'était politique, au contraire, enfin, je crois en une forme de radicalité de la joie. Je crois que on construit la société en littérature qu'on voudrait voir par l'utopie, et c'est le rôle de la fiction. Moi, j'y vis une sorte de responsabilité presque en tant qu'écrivaine. Justement, j'ai pas envie de remuer le marasme dans lequel peut-être en fait on est encore, mais j'ai envie de montrer ce que ça pourrait être aussi. est-ce que c'est, d'une certaine façon d'ailleurs, l'utopie là, dans l'histoire, elle se situe aussi dans ce choix particulier de l'avoir raconté pendant le confinement, effectivement, qui enlevait un certain nombre de questions, puis aussi le fait d'avoir mis deux personnages qui sont déjà lesbiennes, qui n'ont pas... on ne raconte pas ces coming out. Voilà. Et en fait, effectivement, ça en fait une histoire d'amour universelle, parce que c'est ce que ça devrait être, et c'est ce que les lectrices, qu'elles lesbiennes par exemple, ont besoin aussi de lire. C'est en ça que c'est politique aussi, c'est-à-dire que j'avais en tête un double public qui était les gens qui aiment les histoires d'amour et qui aiment les romans forts, intimes, etc. Et voilà, quand j'écrivais, je pensais à eux. Je pensais aussi à ce que moi j'aurais aimé lire en tant que jeune lesbienne. Peut-être, voilà, savoir qu'il était possible de vivre une histoire d'amour comme celle-ci et que ça existe dans la réalité. Et d'ailleurs, j'ai eu des messages pas mal sur Instagram de lectrices qui sont venues me voir pour me dire j'ai vu que c'était un petit peu vrai. Quel espoir, quoi. Et ça, c'est quand même d'avoir fabriqué un peu d'espoir, c'est quand même quelle chance.
Il y a une gageure en littérature aussi, le plus dur finalement à écrire, ce sont les scènes érotiques. Et alors vous y arrivez très bien. Et vous les écrivez sans les décrire vraiment, mais avec des mots crus quand même. Mais il n'y a pas de description directe. C'est comme ça que vous les avez conçus ?
Alors en fait, j'avais envie effectivement de dire...
Mais il y en a beaucoup.
L'amour, c'est ça. Donc comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est un peu
salive
une forme...
Salive et cyprine, comme vous dites.
Oui, salive, cyprine, sueur. C'est un livre d'amour, sur l'amour. C'est presque une enquête, comme vous l'avez dit justement tout à l'heure, sur qu'est-ce qui fait... Quand on tombe amoureux, qu'est-ce que c'est ce sentiment amoureux ? Donc on décortique. Et pour un certain nombre de personnes, le sentiment amoureux naît aussi d'une relation physique sur laquelle j'avais envie de poser des mots, parce qu'il y a presque un indicible du désir féminin dans la littérature, et encore plus quand c'est deux femmes. Il y a aussi une forte érotisation. Moi, j'avais envie de dire que c'était ça. Et simplement. Et pour dire les choses simplement, il faut utiliser les mots tels qu'ils sont, sueur, salive, cyprine. Il faut décrire les corps qui jouissent, les corps qui sont heureux de se retrouver, les caresses. Tout ça, c'est l'amour. Et il n'y a pas de vulgarité à partir du moment où on le met sur le même plan que d'aller chercher du pain à deux.
Ou tu bois quoi le matin,
exactement.
Le premier matin.
Et puis même, il y a quelque chose d'érotique, par exemple, quand elles vont faire les courses, elles viennent de faire l'amour, et tout d'un coup, elles ont envie d'olives, de salades piquantes, de chèvre. Et c'est aussi érotique, en fait, que de faire l'amour, que de s'embrasser, que de se faire un cuni, peut-être.
Et tout ça sous forme de fragments et de poésie. On y revient dans un instant.
Est-ce que désormais tu me détestes d'avoir pu un jour quitter Brest, la rade, le port, ce qu'il en reste, le vent dans l'avenue, Jean Jaurès.
La Voix est libre, toujours avec Anne-Fleur Multon pour les Nuits Bleues aux éditions de l'Observatoire. J'ai mis du Mieux Sec, Anne-Fleur Multon, parce qu'il est dans le livre et il y a beaucoup de chansons. Mais il y a Mieux Sec, mais il y a aussi Capitaine Flamme, par exemple.
Exactement.
C'est un livre musical, pas seulement dans l'écriture. Il y a aussi on entend ces chansons-là.
Ben, effectivement, je crois que je suis infiniment une autrice de la pop culture. Et une partie de la façon dont j'ai appris à écrire, c'est en écoutant des chansons et en écrivant aussi, hein, quand j'étais plus jeune. Et Mieux Sec, quel grand poète. Là, on ne peut pas écouter cette chanson sans pleurer.
Ah, cette chanson, elle est magnifique particulièrement.
Et c'est ouais. ça dit quelque chose vraiment de... D'ailleurs, ça dit quelque chose du sentiment amoureux qu'on peut avoir par rapport à une ville. C'est aussi quelque chose qui est exploré hein, dans le texte, c'est-à-dire le rapport physique qu'on entretient à des lieux qui sont les lieux de nos vies et de nos amours. Donc évidemment, il y a Étienne Dao aussi énormément.
Parce que j'ai pas dit, mais vous venez de Bretagne en fait.
Alors j'habite en Bretagne, c'est vrai, exactement.
Où ça, Concarneau ?
J'habite à Concarneau, oui, qui est quand même...
En face des Glénans.
En face des Glénans, un port de pêche qui vit, très 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 chouette ville. Et comme Brest, où il pleut et où les gens travaillent, quoi. Et c'est ça qui fait que c'est des belles villes.
Je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi un livre de poésie. Et même les espaces purement narratifs, c'est plutôt des fragments, en fait. ça crée aussi une musique. Et puis, il y a chaque chapitre un titre différent. Et c'est, ça crée une multitude d'histoires pour composer cette histoire-là.
C'est vrai qu'il y a quelque chose un petit peu du refrain presque. Je pense que j'avais en tête, d'un point de vue normatif, de faire vraiment quelque chose qui soit qu'on puisse picorer, un petit peu comme on picore l'amour. J'avais effectivement aussi envie de faire quelque chose d'un peu musical, mais en tout cas, en tête, j'avais aussi l'idée que quand on est amoureux soi-même, on ressent des espèces de vagues comme ça, avec parfois des hachures quand on perd le souffle, quand on ne sait plus les mots. Et j'avais envie de montrer ça, que ça soit dans la forme des chapitres ou même à l'intérieur des phrases.
Il y a des retours à la ligne.
Voilà, il y a des phrases qui s'arrêtent. On n'a pas la fin.
Et les chapitres qui font une phrase.
Oui. Et en fait, un petit peu comme d'être plongé, en fait. Vraiment par la forme, dans l'intérieur du corps de quelqu'un qui est amoureux. Et je pense qu'un texte, c'est un corps, quoi. Et qu'il faut qu'on ait un rapport charnel avec. Il faut qu'on puisse ressentir le désir, les baisers, pas seulement dans les mots, mais aussi vraiment voilà, dans les phrases, comment elles sont construites.
Tiens, je vous lis un chapitre en entier. Émoji vague, ça c'est le titre. J'ai l'impression d'être la première, saute à la ligne, la première du monde à aimer. Fin du chapitre.
Voilà, c'est assez court, c'est assez efficace. Je pense que ce sentiment-là qu'on a, qui est un petit peu un sentiment adolescent, égoïste, et c'est ça l'amour. Enfin, je veux dire, on est tout seul.
Il y a des chapitres plus longs et plus denses aussi, et plus narratifs, bien sûr, qui font avancer l'intrigue. Juste, il faut qu'on parle aussi de la forme du livre, mais je veux dire en tant qu'objet. C'est-à-dire qu'il y a une très belle photo avec un bleu magnifique qui correspond au titre Les Nuits Bleues, puis on voit une femme qui court, on imagine, sur la plage vers la mer.
Oui, je peux vous dire que cette femme, c'est fou. Moi.
Ah, c'est vrai.
Oui, carrément. Oui,
non, vous avez les cheveux longs sur cette photo.
J'ai tout coupé. J'ai tout coupé pour les donner.
Mais c'est très flou.
C'est très flou. C'est une photo qui a été prise au téléphone. En fait, j'avais un peu en tête quelque chose comme ça pour cette couverture. Donc, c'est ma femme qui a pris cette photo. Donc, Sarah. Et en fait, je l'ai présentée à mes éditrices en disant c'est un peu à ça que je pense, quelque chose d'un peu pictural, mais en même temps que ce soit une photo. En plus, c'est une photo effectivement extrêmement pixelisée. Et elles m'ont dit non, ça c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut parce que ça représente bien le roman. C'est-à-dire que on sait dès le début qu'on va se suivre, puisque c'est quelqu'un qui prend une photo de quelqu'un d'autre. On va vers la mer, qui est un mouvement aussi qu'il y a dans le roman. On y va en courant. De joie, exactement, de lumière. Et en même temps, c'est pris par un téléphone, c'est pas un appareil argentique, c'est hyper pixelisé. Et il y a une forme de beauté là-dedans. On m'a plusieurs fois demandé, c'est un tableau. Et je crois que dans le roman, il y a un peu de ça aussi, c'est-à-dire on dit émoji vague, on retourne à la ligne, on monte des textos et en même temps, à la fin, on se dit tiens, c'est étonnant, je pensais pas qu'il y avait quelque chose de la littérature, quelque chose d'un peu intemporel là-dedans, dans tout ça, quoi.
Et les éditions de l'Observatoire, ils sont assez connus pour leur jolie couverture et leur
papier
la qualité
très doux
de l'objet, leur papier, etc. C'est important pour vous aussi, j'imagine, ça.
Bah alors là, je crois que... Alors, ça compte vraiment. Moi, je suis une autrice jeunesse et les objets livres... J'étais une autrice jeunesse. Les objets livres, c'est vraiment des choses sur lesquelles on travaille parce que c'est le sujet de collection. Ils sont souvent illustrés. Donc, quand on écrit, on a même souvent les illustrations en tête. Donc, évidemment, moi, je trouve que... En plus, j'ai personnellement un rapport très fort à mes livres. Je les trimballe partout, je les garde, je les relis. Je trouve que c'est important, surtout dans un livre d'amour, qu'on ait comme ça ce papier si doux des éditions de l'Observatoire, cette couverture
mais
granuleuse.
Vous étiez autrice jeunesse, mais vous êtes toujours, non? Et quelle est la différence, en fait? Parce qu'effectivement, ce n'est pas tellement pour les moins de 12 ans, quoi.
C'est une bonne question. Alors, je pense que je le serai toujours. En fait, je suis désormais autrice tout court, puisque j'écris à la fois pour les adultes et pour la jeunesse. Ça ne va pas changer. Je vais continuer de publier des textes pour tout le monde. Mais je crois que c'est effectivement pas un texte à lire quand on est un ado. Mais par contre, il en est vraiment l'héritier de cette culture-là. Je crois dans une espèce d'innocence, une espèce d'intensité des premières fois qui sont vraiment au cœur de la littérature ado notamment, l'intensité, la naïveté aussi, regarder les choses avec tendresse, cet acte particulier qu'être amoureux et qui aimait. Et j'ai écrit ce texte avec cette énergie en tête. Surtout, pas de cynisme. L'amour, c'est quelque chose de beau, toujours une première fois.
C'est une belle manière de fidéliser les lecteurs aussi. À 16 ans, vous pourrez le lire, vous passerez à la catégorie.
C'est vrai que là, j'avais une rencontre dans un lycée pro et pour un de mes textes ados et je leur ai dit... Vous pouvez lire ça si vraiment, notamment, vous posez des questions autour de la sexualité.
N'oublie pas le marketing, évidemment.
14h-15h sur Europe 1.
La Voix est libre.
La Voix est libre de retour, toujours avec Anne-Fleur Multon qui publie Les Nuits Bleues aux éditions de l'Observatoire. Il est l'heure de visiter une bibliothèque, celle de Patricia Loison. Aujourd'hui, la journaliste a publié récemment chez Fayard Ceinture de soie, sorte de carnet de voyage japonais très sensible. Il sera sans doute question du Japon dans ses livres. Allons vérifier. Bonjour Patricia Loison.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous dans une petite maison en banlieue parisienne.
Ouais.
On est à la fois dans votre salon, dans votre salle à manger et dans votre cuisine.
C'est vraiment une toute petite
ouverte.
Maison. Voilà.
Avec une grande table, cela dit. Hein. On peut être au moins une dizaine. Là, ouais. Tranquille.
Ça. Ouais. C'est la table de mon grand-père. C'est lui qui l'a faite.
C'est vrai qu'elle est magnifique. Hein. Mm. En bois comme ça, avec des planches massives.
Ouais.
Y a beaucoup de livres, un peu partout.
C'est le bazar. J'ai essayé de ranger avant que vous veniez, mais ça ne marche pas.
Évidemment, il y en a beaucoup dans le salon avec ces bibliothèques qui sont autour de la télé,
ouais.
Qui sont comme ça, sur mesure presque.
Exactement.
On va voir ce qu'il y a dedans tout de suite. Mais d'abord, je vois qu'il y a des livres de cuisine et parfois on a des belles surprises.
Vous avez vu des choses qui vous plaisent ?
Ouais. J'ai vu. Alors, il y a un livre sur la cuisine japonaise, Tokyo, ce qui fait un peu le lien avec Ceinture de soie,
oui.
Votre roman.
C'est gentil, oui.
Vous cuisinez japonais aussi ?
Non, j'ai pas ce talent-là. Il y a qu'une recette que je connais. Je sais pas tout faire tomber. Il y a qu'une recette que je connais japonaise que je fais. C'est du potiron au miso, mais c'est tellement simple. Le miso, c'est la pâte de soja fermentée. Il y en a du blanc ou du rouge. Et là, c'est le livre que m'a offert ma...
Il est beau, grand format.
Quand on est parti. Et ouais, c'est super beau. Et ça en rend hommage à toute la... Alors ça, c'est un peu le cliché qu'on a, mais en fait, on ne mange pas souvent du poisson cru comme ça. Il y a même des œufs brouillés. Et puis, c'est un peu francisé aussi.
Ça vous fait peur de vous y mettre vraiment à la cuisine japonaise ? Parce que c'est sophistiqué.
Ah non, mais j'adore la manger, détrompez-vous. Ah,
j'imagine, mais pour la faire.
J'adore la manger, non, je la fais pas. J'ai vraiment fait... Non. Et puis surtout, quand on était au Japon, on avait surtout envie de... Les enfants avaient envie de manger français. Donc c'était quand est-ce qu'on a des pommes de terre sautées, du steak haché et tout ça.
C'est comme les Américains qui vont au McDo à Paris, quoi.
Ah ben, c'est clair. Et donc du coup, je me suis pas trop mise à la cuisine japonaise. J'ai appris un peu le japonais. Mais je ne me suis pas lancée parce qu'on avait tellement en plus l'occasion d'aller au restaurant, contrairement parfois aux idées reçues. La cuisine japonaise, elle est très abordable, elle est très variée. Vous pouvez manger, c'est un peu comme... ça ne ressemble pas du tout à l'Asie en général, le Japon, mais la cuisine de rue ressemble à l'Asie.
Ouais. Ce n'est pas que des sushis et des makis.
Non, vous pouvez manger des pâtes, des petits sandwichs au riz, aux algues, ça ne coûte rien. Et donc non, j'avoue que je ne me suis pas lancée dans la cuisine japonaise.
Et donc vous parlez un peu japonais ?
Choto mate.
Ça veut dire un petit peu ?
Un petit peu.
D'accord. Je vais vous demander de nous dire un mot en japonais, c'est fait. Merci. Et alors, parmi des livres de cuisine, parce qu'on y est toujours, il y a un livre qui a bien vécu, qui a bien cuisiné.
Il est tout haché.
Parce qu'il est plein de taches, de vin, de sauce, je ne sais pas. C'est,
c'est
un classique en plus.
C'est un classique, je crois. C'est ma tante que j'embrasse de Normandie qui me l'a offert du Havre, Ginette Mathieu. Et c'est vrai que là, pour le coup, quand
La cuisine pour tous.
La cuisine pour
5
tous.
5 millions d'exemplaires vendus. Ouais.
Quand on commence à s'installer à deux et qu'on veut quand même pas manger des chips tous les soirs. Et alors, c'est même pas pour ça. C'est surtout quand je recevais. Et il y a tous les basiques. Si vous voulez faire une pâte sablée, une pâte brisée, si vous voulez. Alors, moi, je sais jamais combien de temps pour un œuf dur.
Vous avez glissé une recette de muffin dedans.
C'est ma belle-mère.
Mais il est marrant ce livre parce que c'est un livre de poche en fait. Et à côté de tous les très beaux livres grand format et tout ça, et finalement celui qui sert c'est celui-là quoi.
Exactement.
Avec tous les basiques, toutes les sauces, tous les plats iconiques, etc.
Le reste c'est pour faire son intéressant. Et celui-là je m'en suis servi aussi, la pâtisserie, parce que j'ai eu comme tout le monde, à un moment donné, l'ambition de faire ma brioche, ma galette des rois. Mais en fait, elle était dure comme ça quand je l'ai faite. Donc, j'ai arrêté.
C'est vrai qu'on oublie quand même, c'est un métier, quoi. Qu'il exactement. Faut parfois des années pour apprendre à faire une bonne brioche. Quoi.
Exactement, exactement.
Et alors, sur le frigo, je vois une fiche question pour un champion. C'est une vraie ?
C'est mes petits trophées que je garde, oui. C'est quand on a été invité avec Samuel Etienne ou avec Cyril Ferraud à faire question pour un champion. Je la garde.
Et donc,
il y a
une question dessus ?
Oui.
Vous nous le faites ?
Alors, je ne sais pas. Je pense que c'est plutôt la réponse. Je pense que ça devait être dépistage. Question pour un champion. Samuel, je t'embrasse. Il est fondamental d'aller se faire dépister. En effet, plus tôt on connaît son statut, plus vite la personne est prise en charge et mise sous traitement rapidement. Le dépistage a un bénéfice individuel et est efficace pour lutter contre la transmission du sida. Toujours
oui, c'est les éléments de réponse. Une fois qu'on réponse, a dit, c'est ouais. Dépistage la réponse. Il y a Samuel qui dit, alors attention, je vous rappelle, etc.
Il vous reste quelques secondes. Ouais,
ah, c'est puis ça. Vous avez un petit tableau des tâches domestiques, c'est pour les enfants, ça ?
Alors, pas du tout. Ça, c'est tous les... Vous parliez gentiment de mon livre tout à l'heure. J'ai mis tous les salons que je dois faire pour que mon mari soit au courant. Et j'espère pouvoir aller au salon du livre de Delhi. Parce qu'ils sont intéressés pour parler du premier livre. Donc, j'ai mis toutes mes interventions extérieures pour que là... Et puis les vacances des enfants et tout, pour qu'on soit...
Ah, donc vous ne faites pas ça sur un fichier Excel, quoi. Vous prenez une feuille à grands carreaux, perforée, et vous dessinez vos tableaux.
Oui, ça me permet de me nettoyer la tête aussi. Mon mari était... Et sa tête est un tableau Excel, mais moi, je préfère faire ça. Et il n'y a que moi qui comprends, parce que je pense que personne d'autre comprend ce qui a vraiment marqué dessus.
Et alors donc, le gros du travail nous attend. Il est là, donc là, on est dans votre salon. Alors, il y a une grande bibliothèque devant nous. Est-ce qu'il y a un classement particulier ou pas du tout, ou pas vraiment ?
C'est moi qui aimerais bien vous poser la question. À la vue du bazar que vous avez devant les yeux, y a-t-il un classement ? La réponse est oui.
Un peu, ouais.
La réponse est oui. J'essaye, mais notamment pour les enfants, si elles veulent piocher dedans. Et pour moi, parce que j'aime bien...
De loin, là, je vois un casier polar, une case version originale en anglais.
Ouais. Mm-hmm.
Une case là-bas, plutôt roman feel good.
Exactement.
Et puis des poches là-haut et des Pléiades aussi.
Ouais, les Pléiades, c'est ma marraine qui me les a offerts et qui n'est plus là, mais je pense à elle quand je les vois.
Il y a autant en emporte le vent.
Il y a autant en emporte le
vent. Enfin, est-ce qu'il est là,
Gone with the Wind, oui. Et lui,
deux exemplaires.
Et lui, y en a deux, ouais. Et lui, je l'ai vraiment lu. J'avais eu un coup de cœur en entrant dans la bibliothèque de mon lycée parce que c'était cette couverture-là. C'était la rouge. À cause de l'affiche. Et quand j'ai vu le nombre de pages, je me suis dit, est-ce que vraiment je vais y arriver
pages,
ça fait 1000 pages. Quoi. Et après, vous entrez dedans et c'est fini. Quoi.
Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, toujours dans les versions originales, il y a Anne Rice. Anne Rice, qui est l'auteur de Entretien avec un vampire. On connaît aussi le film adapté avec Brad Pitt et Tom Cruise. Mais là, c'est Taltos. Alors, je ne connais pas celui-là, mais ça concerne des sorcières, puisque en dessous, c'est marqué avec mon petit anglais Live of the Mayfair Witches.
Ouais, c'est ça. C'est cette trilogie-là.
C'est quoi ?
C'était pareil. C'est des images qui me reviennent. C'est des vieilles maisons. Encore une fois, dans le sud des États-Unis, c'est le point commun qu'on peut trouver. Et avec une jeune fille qui vit là avec sa grand-mère et qui va se découvrir des pouvoirs assez sombres et qui va basculer plutôt dans le côté black, justement, que dans le côté lumineux de la vie. Et j'avais adoré son écriture et ça fait voyager, quoi. Ça, vous partez tout de suite.
Mais aussi pour le côté ésotérique et super pouvoir et tout ça ?
Non, j'aime plus trop ça aujourd'hui, mais c'était vraiment... J'avais
vous avez rêvé d'être une sorcière déjà ?
Non.
Non, jamais.
Pas du tout. Non, mais j'avais 25 ans ou 20 ans et c'est des choses qui vous parlent ou qui vous touchent peut-être plus à cet âge-là qu'aujourd'hui.
Ah bah tiens, il y a d'autres Anne Rice là, mais en version française cette fois et en poche.
Voilà, c'est la
vous
suite.
Vous avez tout relu, quoi.
Ouais.
Taltos,
ouais.
L'heure des sorcières.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Giacometti Ravenne. C'est votre mari, ça ?
C'est mon mari.
Ouais, ça m'étonne pas.
La case polar, c'est mon mari.
Ah bah oui.
Moi, j'aime bien Mo Heder. Je crois qu'elle est décédée, malheureusement. J'adore cette polardeuse. Ouais, c'est toujours très noir. Elle a fait Tokyo aussi, je crois. J'adore cette fille.
Tiens, mais en parlant de Tokyo, il y a beaucoup de livres sur le Japon aussi, évidemment.
Ouais, c'est mes petits, c'est mon petit coin de trésor japonais.
Le Japon contemporain, des livres d'histoire, des romanciers, évidemment, Murakami,
oui.
Kafka sur le rivage.
Ouais.
Vous les lisez pour vous rappeler vos années au Japon, ou alors vous les avez découverts là-bas, ou alors vous les connaissiez avant, et c'est pour ça aussi que vous avez aimé le Japon.
Il y en a plusieurs, parce qu'il y a un de mes collègues qui m'avait offert un livre que j'adore, qui m'avait réoffert les Lucioles avant de partir.
La tombe des Lucioles.
Ouais, la tombe des Lucioles, voilà.
C'est quoi ?
C'est, ça se passe à Kobe, justement, là où j'ai vécu au Japon. Mmh. Et c'est deux petits-enfants, au moment de la Seconde Guerre mondiale, qui finissent par être, se réfugier tous les deux parce que leurs parents meurent dans les bombardements, me semble-t-il. Et c'est comment ils vont survivre et essayer de s'en sortir. Ça raconte aussi la terrible crise économique derrière la Seconde Guerre mondiale au Japon.
Et c'est un classique.
C'est très beau. Ah ouais, c'est un classique.
Il est tout petit.
Ouais.
Oh bah oui, il a bien vécu.
Il a bien vécu, ouais.
Vous êtes du genre à corner les pages.
Oui, à fond. Ouais. Mmh, à casser aussi les livres quand je les ouvre.
Ah bah c'est un ticket de caisse japonais, justement.
Ouais, c'est
Du coup, je ne suis pas compétent, mais ça veut dire quoi ?
Ah bah moi, je ne lis pas, je le parle un tout petit peu, mais je ne lis pas.
Il
y a juste le... Là, c'est les yens. C'est 2382 yens, et donc ça doit faire à peu près 20 euros.
Mais vous ne savez pas du tout de quoi il s'agit.
Si c'est 120 yens, 132, 132, 260, 550 millilitres, donc c'est sûrement dans un combini store. C'est des petites courses...
C'est des petites épiceries,
exactement.
C'est ça ?
Ouais. Pour que ce soit des montants aussi petits, c'est forcément ça.
Genre, c'est étonnant parce que même un petit ticket de caisse comme ça, qui ressemble au nôtre finalement,
ouais, on est perdu.
Et bah, ça fait voyager.
Et c'est, vous comprenez le film Lost in Translation. Quand vous arrivez à prendre le bus et arriver au bon endroit au Japon, vous êtes content. Parce qu'à Tokyo, c'est traduit, mais ailleurs, ça ne l'est pas beaucoup.
Ouais, et vous avez déjà eu une angoisse d'être perdu justement dans la... Traduction, c'est-à-dire perdu, quoi. Vous
tout le temps, mais je me suis perdu. C'est ça le plaisir.
Mmh. C'était un plaisir plus que l'angoisse.
Oui, on se perd plein de fois. On sait qu'il ne va rien nous arriver au Japon. C'est le cliché réel, c'est-à-dire qu'il ne va rien vous arriver. Mmh. Il y aura toujours quelqu'un, une petite grand-mère, un monsieur sympa qui va vous s'arrêter, qui va essayer de... et qui va au pire vous emmener devant un contrôleur ou devant quelqu'un qui sait, et puis ils vont se mettre à 14, et vous allez réussir. Moi, j'ai quelqu'un qui nous a emmenés, qui a fait plus d'un kilomètre à pied avec ma fille quand on cherchait désespérément où se trouvait la salle de son cours de gym, et qui nous a emmenés à pied pour Google Maps aidant, quand même, toutes les applis comme ça, pour nous emmener au bon endroit.
Mais en fait, est-ce que ça n'enlève pas aussi un peu de sel à l'aventure, quoi, s'il peut vraiment rien nous arriver ?
Bah, il nous arrive la rencontre, c'est ça qui est
voilà,
bien.
Voilà, bonne réponse.
Il nous arrivera rien de grave, c'est ça que je veux dire. Il nous arrivera rien de grave, donc on peut se laisser perdre avec plaisir.
Hmm. Qu'est-ce qu'on a d'autre de l'autre côté ? Comment c'est quoi ici ?
C'était le bazar, mais je crois que vous avez sorti des choses. Hein.
La dame qui aimait les toilettes propres.
Ça, c'est mon autre tante qui me l'a offert. Elle bosse à la bibliothèque de Troarn. C'est une ancienne instite qui adore et qui dévore les livres et qui me l'a offert il y a longtemps. Parce qu'elle avait dû avoir un coup de cœur. Je crois que c'est... Non, c'est anglais, je crois que c'était allemand.
Chronique d'une des plus étranges histoires colportées dans les environs de New York.
Mais là, je ne m'en rappelle plus. Je sais que c'est
traduit de l'américain.
Je sais que c'est une dame très sympa qui garde des toilettes à qui il va arriver plein d'aventures.
Don Levy, c'est le nom de l'auteur.
Ouais.
La dame qui aimait les toilettes propres, ça a l'air marrant.
Et ça correspond au Japon aussi, tout à fait, même si c'est américain.
Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah bah Jean Tellet, on adore Jean Tellet à La Voix et Livre. Mangez-le si vous voulez, qui est sur un fait divers.
Ah non, mais ça, moi, j'adore Jean Tellet, mais là, je crois que j'ai atteint ma limite avec Mangez-le si vous voulez.
Pourquoi c'était trop dur ?
C'est trop dur.
Mais c'était un fait divers, c'était de l'actu à l'époque.
Ouais, mais on n'est pas obligé d'aller... Pardon Jean... On n'est pas obligé d'aller aussi loin. Ah,
c'est
dans
l'histoire dans un petit village d'un aristocrate qui se fait manger littéralement par des agresseurs.
Moi, j'adore son style, mais là, j'ai atteint ma limite.
Mais il en a fait d'autres ensuite, beaucoup plus soft.
Ouais, voilà. Je préfère.
Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a beaucoup de livres de poche.
Oui,
ceux-là, ils sont assez abîmés. Vous en avez des préférés là-dedans ?
Ah oui, ouais, j'adore. Alors, est-ce que je vais bien dire son nom ? Shilpi Somaya Goda, c'est une auteure d'origine indienne qui vit au Canada. Mm-hmm. Et du coup, ça me touche forcément un peu plus.
La fille secrète,
c'est une histoire d'adoption. Pour le coup, c'est une petite indienne qui est adoptée par une famille indienne américaine qui retourne en Inde pour essayer de trouver ce qui s'est passé au moment de son adoption. Et un fils en or, c'est génial. C'est vraiment les deux civilisations entremêlées. C'est un Indien qui va un fils de famille, l'aîné d'une famille indienne d'agriculteurs assez bourgeois, de propriétaires terriens plutôt, qui part aux États-Unis faire sa médecine et qui va être tiraillé tout au long de sa vie entre sa réussite de vie à l'américaine, une femme américaine, un appartement américain avec une moquette épaisse et une belle voiture, et retourner se mettre les pieds dans la terre en Inde pour essayer de d'aider ses frères à s'en sortir dans la culture. Et voilà, et je ne spoil pas, mais c'est des beaux récits de vie, j'aime bien. Et c'est subtil, c'est pas caricatural.
On redit le nom pour que les gens puissent noter, ceux qui sont intéressés.
Shilpi Somaya Goda, G-O-W-D-A.
C'est chez Folio. Cherchez avec le titre, sinon Un fils en or, c'est plus facile.
Ouais. Tiens, vous avez Fifty Shades of Grey aussi. Il est un peu caché.
Non, c'est vrai. Non, mais j'ai
50 nuances de Grey.
Ah, j'ai adoré.
Ouais, vous l'aviez lu à l'époque du phénomène,
ouais.
Quoi, de l'explosion du phénomène.
Je l'ai lu. C'est de la chick lit, de la littérature pour filles absolue, savamment épicée, c'est agréable, quoi. Soyons pas, focus, quoi. C'est le cas de le dire avec ce roman, mais pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. C'est comme quand on prend, je sais pas moi, un McDo avec un Coca, quoi. Ça fait du bien de temps en temps. C'est agréable. Mais bon, après, on lit une fois, je ne l'ai pas relu, je ne l'ai pas corné.
Petit frisson et tout, la lecture.
Ouais, et puis je trouve que... Enfin, pardon, mais... aujourd'hui, les enfants, ils ont accès à tout, au porno, tout ça, sur les écrans. Moi, j'ai découvert l'émotion, le désir, la sexualité, l'attirance, la beauté, le corps, beaucoup par les livres. Quand j'étais petite, il y avait des livres, on m'a dit, mais ça, non. Enfin, rien que Nana avec Zola, moi, ça m'avait... Waouh, je me suis dit, bon, il y a aussi ça dans les livres. Il n'y a pas juste le truc qu'on vous lit pour vous endormir le soir. Ça ouvre toutes les portes. Et je trouve que, voilà, moi, je me dis, si mes filles, bon, elles n'ont vraiment pas besoin de ça, mais si un jour elles veulent entrer dans ce dôme, dans cette zone du désir ou de l'amour autrement que par ce qu'on peut malheureusement leur servir direct de façon absolument écœurante, je trouve le plus souvent, je trouve que c'est parfois mieux de le faire avec soi-même en feuilletant des pages qu'en glissant sur des images.
Je vois que vous avez du Modiano, Dora Bruder. Ouais. Et pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, j'étais sûre que vous auriez du Modiano. Pourquoi ?
Je sais pas, parce que c'est court, évident, ça vous perd aussi, c'est poétique, ça touche. Moi, j'admire ces écritures qui touchent. J'aime Delerme aussi pour des moments, des raisons différentes, mais j'admire vraiment ces auteurs qui... en deux mots, en trois phrases.
Minimaliste
et vous embarque.
Beaucoup de Michel Houellebecq aussi, qui n'est pas dans le même genre.
Non, alors c'est parce que je me suis dit qu'il ne fallait pas mourir idiote.
vous en avez beaucoup.
Oui, j'ai parce que j'admire aussi l'intelligence, la densité, le labyrinthe, la réflexion.
Plateforme, sérotonine, les particules élémentaires.
Et vous avez plateforme, mon préféré. Mais je trouve, pour moi, c'est trop. Je conçois le regard qu'il porte sur la société.
Trop sombre.
Ouais, moi, pour moi, c'est trop une image de l'homme. Peut-être.
Peut-être
réaliste.
Lucide, mais.
Ouais, pour moi, c'est pas ma façon de regarder ni la vie ni l'humanité. Et pourtant, je rapporte des mauvaises nouvelles bien souvent. C'est peut-être pour ça que j'ai envie de lire autre chose.
Vous avez des pléiades aussi, en particulier des pléiades de Colette.
Ah, mais voilà.
Trois pléiades
avec Olaf
de
dedans, on peut le dire. Hein. Olaf déchiré par le chien.
Qui est la peluche du personnage de La Reine des Neiges.
Oui, exactement.
Le bonhomme de neige.
Terre de contraste, ma bibliothèque.
Vous connaissez bien La Reine des Neiges ?
Libéré, délivré, non mais je vous le chanterai pas.
Je veux un bonhomme de neige.
Je veux un bonhomme de neige.
Ouais. Ouais, un bonhomme de neige.
Non, moi je connais que Libéré, délivré.
Et alors pourquoi Colette ?
Parce que j'adore.
Et pourquoi en Pléiade ?
Alors en Pléiade, ça va faire petite bibliothèque des souvenirs, mais c'est ma marraine qui m'a offert des Pléiades. Super. Elle n'est plus là, mais j'ai gardé ses livres. Alors, je ne suis pas une fan de la lecture Pléiade.
Ouais,
c'est trop fin pour moi. Je n'ose pas. Ils sont déjà abîmés parce qu'ils ont fait plein de déménagements.
Ouais, elle a pris un peu l'humidité.
Ouais.
Mais en même temps, elle a vécu.
Elle a vécu. Mais j'adore Colette. Alors, pour moi, c'est la sensualité de l'écriture, les couleurs, la nature, les parfums. Savoir dire la richesse, l'opulence de l'écriture. Vraiment... Moi, je connaissais une vieille dame quand j'étais petite, à côté de la maison de campagne de mes parents, qui m'a appris les fleurs, même regarder les cailloux. Elle trouvait des mondes dans des pierres. On se faisait des petites maisons comme ça, dans des recoins de rochers, aller cueillir les... Enfin, ça fait cliché, pardon, mais... Et moi, je revis ça quand je la lis. Les clochettes dans le bois, l'herbe après après qu'on ait tondu la pelouse, tout ça, quoi. J'adore Colette.
Et vous la relisez souvent ?
Oui, alors là, c'est, quand je vous dis ça, c'est sans doute ce que j'ai éprouvé quand je l'ai lu la première fois. Et d'ailleurs, j'ai lu La naissance du jour de Colette dans la maison de campagne de mes parents. Je m'y suis replongée il n'y a pas longtemps et ça a été moins magique. Alors pour l'instant, je le laisse là.
Ah, vous avez peur de ce que vous allez y retrouver ?
Ouais, ou de pas
casser le souvenir.
Ouais. Ou de pas être aussi ému par ça. Donc
vous y trouverez autre chose sans
peut-être.
Doute.
Peut-être.
Ouais. Bon, on vous laisse lire Colette. Merci beaucoup, Patricia.
Merci
Loiseau.
À vous, merci beaucoup.
De retour en studio et je rappelle Ceinture de soie. C'est le livre de Patricia Loison, publié chez Fayard et chez vous, Anne-Fleur Multon. Vous êtes toujours avec nous. Comment sont rangés les livres ? Est-ce qu'il y en a d'abord ?
Oui, il y en a plein, il y en a partout. C'est presque... Je suis pas très matérialiste, j'aime pas trop être envahie par les objets. Mais alors, je crois que les livres, par contre, j'y vois même pas vraiment des objets, j'y vois des petites âmes. Donc je les garde et je m'en sers vraiment. J'ai une bibliothèque de travail dans ma chambre où je relis les livres. Tous les livres que je garde, je les ai au moins relus 3 ou 4 fois. Et c'est vraiment une pratique que j'ai, je lis très vite. Donc j'essaye de lire... autant de fois que possible un texte pour m'en imprégner à plusieurs degrés. Je les garde près de moi, je les transporte avec moi, j'ai des bibliothèques dans mes cartables.
C'est un appartement, c'est une maison ?
C'est une maison, c'est l'avantage d'habiter à Concarneau. C'est une petite maison tout en hauteur, voilà. Et il y a des livres à tous les étages, pour tout le monde aussi. J'ai pas une bibliothèque blanche, j'ai vraiment une bibliothèque d'autrice jeunesse, je pense, avec des livres de toutes les couleurs. Je lis aussi pas mal en anglais, donc j'ai des couvertures très colorées parce que les anglophones et les éditeurs américains font des couvertures hyper vivantes.
Ah bah une librairie britannique ou américaine, ça n'a rien à voir avec une librairie française, ça c'est sûr.
Exactement. En tout cas, ça n'a rien à voir avec les librairies françaises au rayon adulte. C'est un autre rapport avant qu'on parlait d'objets livres.
C'est des couvertures qui nous sautent aux yeux, quoi.
Exactement. On amène autre chose dans
sobriété.
Le dialogue. Et ouais. Et je pense que d'ailleurs, j'étais contente que mon texte soit bleu comme ça parce que et orange. Il y a une forme de joie aussi dans une couverture qui est pas. Qui se prend pas trop au sérieux, qui reste élégant quand même.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, le retour de la vengeance. Nous partons donc chez Christophe Daniel, librairie La 25e Heure dans le 15e arrondissement de Paris.
Bonjour Christophe.
Bonjour Nicolas.
Alors, deux coups de cœur et deux livres courts. Aujourd'hui.
Oui, ça a changé un petit peu d'habitude. Donc deux livres courts. Le premier, c'est le nouveau livre de Didier Blonde chez Gallimard qui s'appelle Autoportrait aux fantômes. Alors Didier Blonde, il construit une œuvre assez singulière. C'est quelqu'un qui a des marottes, des obsessions même. C'est lui qui avait écrit ce fabuleux livre, le carnet d'adresses de quelques personnages fictifs de la littérature.
Génial, il faisait en fait l'annuaire de tous les personnages de fiction, mais avec leur adresse de roman. Et on pouvait visiter, alors c'était beaucoup à Paris, mais pas seulement, on pouvait visiter le lieu des personnages de fiction, incroyable.
Voilà, avec Didier Blonde, on déambule dans Paris et on est à la recherche des fantômes, comme le titre l'indique. Alors c'est des fantômes de fiction, des fantômes qui appartiennent au cinéma aussi, parce que c'est un dingue de cinéma, notamment de cinéma muet. Et puis là, dans cet autoportrait, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est un texte où c'est un portrait en miroir de l'auteur par rapport à ses personnages. Alors là, on est dans la littérature, on est aussi dans le cinéma muet et la photographie. Et c'est vraiment un bonheur, ce petit texte, avec aussi une quête un peu personnelle et l'ombre du père de Didier Blonde qui hante aussi les pages comme d'autres fantômes.
Mais quoi, c'est des conversations avec des personnages ?
Non, ce sont des souvenirs, des promenades, des anecdotes. Ça va de la Jeanne de Baudelaire au destin tragique de Jean Turner, en passant par des films fantômes aussi, des films cultes. On sait qu'ils ont existé, mais il n'y a aucune trace. Il y a par exemple Londres après minuit de Todd Browning. On apprend plein de choses, on se balade dans Paris et on se régale de l'écriture de Didier Blonde.
Autoportrait au fantôme, Didier Blonde, donc c'est chez Gallimard. Et puis alors l'autre là, c'est Sabine Vespizer, petit texte aussi, mais grand j'imagine par la qualité, Le dernier mouvement de Robert
Sitaler, qui est un auteur autrichien qui a déjà publié chez Sabine Vespizer plusieurs romans. Et là, le dernier mouvement, on est à bord d'un paquebot, l'America. Et sur le pont supérieur, on est avec Gustav Mahler, le chef d'orchestre et compositeur.
Encore un fantôme,
oui. Alors là, en plus, c'est la fin de la vie de Gustav Mahler. Il est emmitouflé dans une couverture en laine et le garçon de cabine lui rapporte des tasses de thé bien chaud pour le réchauffer, mais le pauvre homme est en sale état et ça va être pour lui l'occasion de contempler la mer, d'écouter le cri des mouettes, et tout ça va le plonger dans des réminiscences de sa vie tumultueuse, sa vie de musicien passionné. C'est un bourreau de travail, et puis c'était aussi le mari d'Alma Mahler, avec une relation très tourmentée, orageuse, passionnée. Et puis il y a aussi le deuil qui les a marqués tous les deux avec la mort de leur fille aînée. Tout ça est raconté avec un style très, très simple, très juste, pas d'emphase, pas de lyrisme. Et franchement, c'est court, mais c'est très marquant, profond, et comme quoi un livre de peu de pages peut vous laisser un grand souvenir après la lecture.
Du genre qui reste dans la tête et dont on se rappelle longtemps.
Exactement. Et alors le dernier mouvement, le titre fait évidemment, il a deux sens, hein, c'est le dernier mouvement musical d'une symphonie, et puis aussi le dernier, puisque le retour de New York en Europe de Gustav Mahler sera aussi la fin de sa vie, puisqu'il mourra quelques semaines après.
Traduit de l'allemand par Elisabeth Land, Robert Sitaler, Le dernier mouvement, et on a dit aussi Didier Blonde, autoportrait au fantôme. Merci beaucoup Christophe.
Merci Nicolas.
De retour en studio, toujours avec Anne-Fleur Multon. Merci beaucoup Christophe Daniel. Et voici Sébastien Bordenave et ses bandes dessinées. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Je vous présente Anne-Fleur Multon.
Chanté.
Anne-Fleur Multon, je vous présente
Enchanté.
Sébastien Bordenave, qui vient toujours, toutes les deux semaines d'ailleurs, avec deux albums de bandes dessinées en alternance avec Héloïse Goy et ses auteurs jeunesse d'ailleurs, Héloïse Goy. Mais bon, c'est tombé sur la bande dessinée, c'est plus rigolo. Et vous avez donc deux albums, et notamment le premier qui a un titre qui ressemble un peu à un graffiti qu'on pourrait lire sur un mur.
Oui, exactement, ou dans des toilettes publiques. Le titre de la BD, c'est Mort au con. C'est une BD publiée chez Jungle Ramdam de Corbeyran et Saint-Georges. C'est l'adaptation d'un roman d'un écrivain français, Karl Aderholt.
Prix européen GMF il y a deux ans.
Tout ça est fait exprès. Mm. Et j'adore le pitch de cette BD. Ben fait un constat implacable. On est entouré de cons qui nous polluent l'existence. Alors il décide d'y remédier en choisissant une option certes un peu radicale, mais efficace. Il les élimine. Problème, c'est quoi un con? Comment on le définit? Comment on le repère à coup sûr? Parce qu'il ne faudrait pas commettre d'injustice. Alors chez les cons, il y a les valeurs sûres, ceux qui mettent tout le monde d'accord. Et puis il y a les dossiers un peu litigieux, ceux où le doute est permis, ceux où on se dit que oui, puis en fait non. Ben, durant toute la BD, cherche l'exacte définition du con, la méthode infaillible pour les repérer. Les choses se corsent vis-à-vis de la maréchaussée quand il élimine des personnes de son entourage très très proche. Vous l'avez compris, la BD est un petit bijou d'humour noir et de cynisme joyeux. D'ailleurs, je vous l'offre, Anne-Fleur Multon, en espérant qu'elle vous plaise. Voilà, petit cadeau.
Sachant qu'on est toujours le con d'un autre, bien sûr.
Ça, je le confirme.
Et on éloigne maintenant les oreilles chastes, puisque vous m'avez dit que la deuxième BD s'appelait Amour cru et qu'elle était même carrément interdite au moins
de
18 ans.
Ouais.
Et vous savez que c'est une maison convenable ici.
Exactement, vous avez raison Nicolas, éloignons les yeux chastes, mais les oreilles chastes peuvent rester. Je vais m'exprimer avec retenue. La deuxième BD, c'est Amour cru de Grégory Mardon et El Diablo. Elle est effectivement interdite au moins de 18 ans. Elle n'en est pas moins extrêmement réussie, envoûtante et d'autant plus bluffante que l'histoire proposée prend régulièrement le lecteur à contre-pied tout au long du récit. C'est édité chez chez Glénat, une maison respectable, mais qui a, qui a créé une collection appelée Porn Pop, dirigée par la talentueuse et inclassable Céline Tran, ex-Katsuni. Mélina et Charlie sont deux femmes, amies d'enfance. L'une est plutôt timorée sur la réserve, alors que l'autre est tout feu, tout flamme, pour ne pas dire pire. Le graphisme est au-delà du cru. Les dessins ne cachent rien, ce qui ne gâche rien. Charlie, la timide, va présenter un nouveau fiancé à la pétaradante Mélina. Un fiancé d'un premier abord froid et coincé. Mais la véritable nature de cette relation va être rapidement dévoilée. On bascule alors entre l'horreur psychogore et l'érotisme plus que poussé. Mais je le répète, c'est le déroulé de l'histoire qui va faire de cette BD une réussite. Elle est interdite aux moins de 18 ans, donc ne l'offrez pas à votre petit-fils, à moins qu'il soit né avant 2004. J'ai compté. Voilà.
Mais pourquoi c'est pas celle-là que vous avez offert à
Elle était sur mon bureau, mais elle a disparu, ce qui est un, c'est un gage de qualité.
Vous nous rappelez les titres des deux BD ?
Morocon, publié chez Jungle, Ramdam de Saint-Georges et Corbéran, et Amour cru, publié chez Glénat de Grégory Mardon et El Diablo. On se quitte avec un dialogue de BD entre un homme et une femme, Robert et Raymond Bidochon. Tu prends de la crème fraîche avec ton lard à l'huile ? Bah, bien sûr, quelle question. Voilà, bon dimanche à
c'est
tous.
Tout. Merci beaucoup Sébastien. Anne-Fleur Multon, vous en lisez des bandes dessinées ?
J'en lis, oui. Alors, je lis de la bande dessinée belge principalement, parce que donc, j'ai un beau-père qui fait collection. Et donc, je me suis un peu remise à des grands classiques, hein, Aldébaran et tout ça. Mais ce n'est pas un genre que je connais très bien. Effectivement, le dessin et l'écriture mélangée, effectivement, c'est presque un genre à découvrir et pas si facile de rentrer dedans quand on n'y a pas vraiment été
habitué.
Quand on n'y a pas été vraiment habitué.
Il Le beau-père, c'est Yann.
Le beau-père, c'est Yann.
Ouais, c'est lui qui écoute La Voix est libre. Vous m'avez dit ça tout à l'heure.
Exactement, j'ai un beau-père très fan de...
Auditeur fidèle, ça fait plaisir.
Exactement, et je suis contente qu'il nous ait écoutés. J'espère que cette émission lui aura plu.
Les Nuits Bleues, c'est le titre de votre roman aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup, Anne-Fleur Multon, d'avoir fait le chemin depuis Concarneau pour venir nous voir.
Mais c'est moi qui vous remercie. C'était très intéressant de parler tous avec vous.
Merci, à bientôt.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide, à Boris Paczynski et Pierre-Yves Falson, les hommes aux doigts de fée, et à Grégory Delpeuch pour la programmation musicale. Justement, rendez-vous avec Didier Barbe Olivier maintenant pour Dis-moi ce que tu chantes. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
La Voix est libre.
Nicolas Carreau.